Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, depuis plus de 20 ans la voix du fandom Star Wars, pour cette édition littérature qui sera aujourd'hui consacrée au tome 1 de Dark Vador, sorti chez Panini Comics. Je suis Loïc, et je suis accompagné aujourd'hui de Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Loïc, bonjour Francis.
Et de Francis donc, bonjour Francis.
Bonjour messieurs, bonsoir pour vous.
Voilà. Nous voilà à nouveau dans ce trio pour chroniquer une émission de littérature, ça faisait quand même longtemps. Donc je rappelle à nos auditeurs qu'on va garder le schéma habituel des émissions de littérature, à savoir que si vous avez envie de nous écouter de nos petites actualités Star Wars ou autres, vous pourrez nous retrouver sur le tarmac du Spatioport en fin d'émission. Et donc, avant de commencer notre programme, on voudrait rappeler les plus récentes émissions Star Wars, que sont l'émission consacrée à Bad Batch épisode 6 à 10, dans laquelle Sylvain et Aude détruisent 4 épisodes de la série, ainsi que l'émission Star Wars Gamer consacrée au jeu virtuel, réalité virtuelle, pardon, Tales from Galaxy's Edge avec Cécilie et Julien. Et si vous aimez Star Wars en direct et si vous avez envie de nous soutenir, direction notre boutique où vous pourrez vous procurer t-shirts et autres produits dérivés à l'adresse starwars.direct/boutique. On remercie nos partenaires, Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, StarWarsUniverse.com, PlanetStarWars.com, Star Wars Geeks Québec, Star Wars Littérature Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction. Merci messieurs, et on passe en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Et bien voilà, comme je le disais en introduction, c'est parti pour la chronique du volume 1 de Dark Vador, cette série qui a redémarré au numéro 1. Et messieurs, qui pour nous faire la présentation de l'histoire de ce volume?
C'est très organisé.
Et en plus,
j'aime ça faire des réactions.
Oui, alors il est vrai que nous avons totalement oublié de définir les rôles. C'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission de littérature.
Hein. Ça je veux bien y aller à la Wallagan si tu veux.
Allez.
Dans les mains.
Thomas.
J'y vais à la Wallagan et je repasse.
C'est parti.
C'est un bouquin qui a été écrit donc par Greg Pak et dessiné par Raphaël Yenko. Alors, à la fin du bouquin, on nous rappelle justement les fameuses interventions. Donc, il avait fait le fameux Planet Hulk et World War Hulk, Greg Pak, donc qui étaient des musts en fait hein, sur l'univers Marvel. Sur Star Wars, il avait fait un one shot sur l'ère de la rébellion, mais qui n'était pas foufou. Donc, on pouvait se demander si ça allait valoir le coup. Et ben moi, je trouve que oui. Déjà un petit peu de spoiler. Déjà, on attaque avec quand on ouvre le bouquin avec cette couverture qui pète vraiment. J'ai adoré cette couverture. Et on a, comme pour le Star Wars 1, on a un petit one-shot avant que ça commence. Alors, je sais pas à quel moment ça avait été publié. Ils appellent ça, le truc, c'est...
Empire Ascendant.
Empire Ascendant,
ouais.
Voilà.
Ouais, ça avait été publié, dans le fond, en un seul. Il y avait 4 one-shot, on va appeler ça comme ça. C'était un numéro spécial, 50 pages.
C'était en 2019.
Ouais, c'est ça. Il y avait un prologue pour Vader, un prologue pour Star Wars. Je crois que dans le cas d'Afra, c'est un épilogue plutôt qu'un prologue. Et un genre de prologue aussi pour, voyons, la nouvelle série Bounty Hunters.
D'accord.
C'était les 4 réunis.
Voilà. Alors, j'avais... Autant dans le Star Wars 1, je l'ai trouvé un peu... Ouais, bon, vite fait, on peut faire un petit placement de produit, Poe Dameron, machin. Mais dans celui-ci, je l'ai trouvé pas mal. Alors, on est en fait avec une escouade de Death Troopers qui va faire sa première mission. Et ils sont gérés, en fait, par un capitaine. Non, je sais même plus quel est son grade, hein. qui les envoie sur une mission et qui envoie le groupe de Death Troopers sur une mission. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un speech dans ce mini épisode, ce mini one shot. Il y a tout un speech sur l'importance en fait de la mission, le fait de la réussir, que même si vous mourrez, vous n'êtes pas un héros, vous êtes un héros que si vous mourrez et que vous avez réussi la mission, ou alors que vous survivez et que vous avez réussi la mission. Donc le mec, il les briefe vraiment, il leur fait une morale de dingue et on se dit ouais bah c'est vraiment un gros con, mais on peut imaginer que le gars applique cette même méthode à lui-même. Et ce qui est intéressant quand ils font une attaque bon qui est assez assez anecdotique en fait, c'est que à un moment le type se retrouve en posture pourrie et à ce moment-là on voit qu'en fait ben le moment où la mort approche ben finalement il a même peut-être même plus les fouettes que ces fameux soldats qu'il a conditionnés. J'ai trouvé que ça c'était très intéressant et au moment où ils arrivent pour tirer ils se disent que ben, les Death Troopers vont lui tirer dessus et non ils tirent sur le missile pour arriver à la mission. Et c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce sont bien des héros, puisque du coup, ils ont réussi la mission. Il y a eu un mort, mais c'est pas les Death Troopers, c'est leur chef qui leur a fait la morale là-dessus, sur l'importance de la vie et de la mort. Et c'est quand même intéressant de voir que le gars ressent la peur. Et à la toute fin, on voit justement cette bande de Death Troopers qui se retrouve dans une unité médicale, à peu près l'équivalent de ce que Dark Vador avait eu pour se remettre en forme, entre guillemets. Et c'est des troopers qui sont abîmés, mais pas morts. On va essayer de les récupérer. Et arrive un autre collègue chez Fayon qui arrive en fait pour se venger de la mort de son coéquipier de responsable, parce que il a pas apprécié qu'en fait des soldats sous-gradés aient mis en danger, enfin même tué pour la mission un plus haut gradé qu'eux. Et donc là, on se dit, bah, il va les dézinguer. Sauf que là, Dark Vador arrive et il dit non. La phrase exacte, je vais aller la rechercher, c'est « Nous avons besoin de vainqueurs ». Et cette phrase, elle tue. Et voilà, il va les recomposer, ces Death Troopers. Et ça va être, a priori, si j'ai bien compris, les Death Troopers qui vont l'accompagner pour la suite des aventures. D'accord ? Donc, ils ne sont pas nombreux. Et rien que ça, enfin, je ne sais pas, on peut peut-être faire une petite pause là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça pose le décor. J'ai lu ces 10 pages, je me suis dit, waouh, là, ça va envoyer du pâté. Ça y est, quoi. Enfin, tu sens que la pression, elle est montée en 10 pages et il a une vraie utilité, ce mini one-shot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez-y.
Moi, je l'ai trouvé anecdotique, mais par après, c'est ça. Là, après, quand parce que c'est dès les premières pages du premier numéro, après qu'on revoit les Death Troopers en question. Donc, et même sur la couverture, en fait, hein, de l'album. Donc, c'est là que tu fais le lien. Sinon, je trouvais ça relativement anecdotique, mais tu vois que même avant d'être recruté, on va dire, par Vador, c'était déjà des gens qui... Parce que, je sais pas si tu l'as mentionné dans ton résumé, mais ils se sacrifient plus ou moins eux-mêmes aussi là, au moment de... Tu sais, dans le fond, je suis pas sûr qu'ils espéraient survivre à ça. Là, quand il y a pas juste le sergent qui était censé mourir, là, eux aussi. Ou en tout cas, ils étaient très près de l'explosion, là. Donc c'est ça, on voit que c'est déjà des fanatiques, on va dire là, tu sais, ou des des spartiates là. Fait que Vador effectivement les considère qui ont assez de valeur pour les sauver.
Moi j'ai fait un chemin un peu particulier puisque je l'ai pas lu avant. Alors je sais c'est censé être un prologue, mais j'ai attaqué dans le dur avec la série Vador et j'y suis revenu après, donc j'ai ressenti après coup le côté anecdotique mais complètement. Par contre, c'est vrai que la chute avec l'apparition de Vador et ce qu'il dit, là, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, ça en est dommage que ce ne soit pas un peu, comment dire, la ligne directrice de la série Dark Vador, que ce soit genre la recherche de vainqueurs après après avoir asséné une victoire à l'alliance contre l'alliance rebelle, etc. Et toutes les en balance avec les défaites qu'ils ont connues, l'étoile de la mort et compagnie.
Oui, parce que c'est ça, je l'ai dit, on va les revoir, mais je veux dire, on part complètement sur autre chose après. Là.
Oui, c'est ça.
C'est vrai, ça.
Ouais, moi, j'avais l'impression de relire, tu sais, on avait eu la série Vision, Vador Vision. Là. J'avais l'impression de faire un petit one-shot anecdotique que Vador apparaît juste à la toute fin.
Oui, c'est vrai. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai vraiment cette ambiance. En plus, bon, niveau dessin, c'est pas ouf.
C'est grossier,
voilà, donc vraiment, je suis d'accord avec toi, Francis. On a vraiment ce petit Vador Sombre Vision. C'était quel était l'impact de la vision de Vador dans les gens qui le côtoyaient ou qui avaient pu croiser sa route. ça aurait très bien pu fonctionner pour les Death Troopers.
Mmh. Ouais. Et toi, Francis, qui l'as lu avant, ça t'a pas mis une espèce de, je sais pas, de puissance un peu autour du personnage de Vador et de ses ouais. valeurs de conquérant, non? Enfin, t'as pas ressenti? Enfin, pour moi, ça...
Oui. Oui, parce que ce que t'as pas dit aussi, c'est qu'il tue complètement l'officier qui était sur le point de débrancher les Death Troopers. Ouais. Parce que c'est ça, comme tu dis, il était en unité médicale, puis là, dans le fond, il disait non, ils ont tué leur sergent, ils méritent pas de survivre, tu sais. Ou qu'on paye pour les réparer, on va dire.
Mais les prothèses cybernétiques, on voit qu'ils sont installés, donc grosso modo, ça a coûté cher de les réparer.
C'est ça. Mais là, Vador se pointe et exécute l'officier à la. Donc là, on est tout à fait dans l'Empire contre-attaque. Hein. Quand on voit Vador tuer tout le monde.
Tu vois, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était vraiment le fait que, si tu veux, ça, c'est une critique aussi de la guerre dedans, puisque on te montre que finalement, les décideurs de la guerre, ceux qui vont faire les choix de sacrifice, c'est pas ceux qui les subissent. Assez souvent, on sait bien que tu vois les mecs sur une carte qui sont en train de jouer à risque, ils avancent les bonhommes et tout, vas-y, on gagnera coûte que coûte. Et en fait, ils ont pas le nez dans la merde, en fait. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et que le jour où tu leur mets le nez dans la merde, déjà, tu vois la peur et tu vois les autres officiers qui se disent « Mais merde, ça peut m'arriver !» Et donc, du coup, voilà, ce concept de « Allez, on y va, on se sacrifie pour l'Empire », finalement, les gars qui sont en haut, ça fait moins sacrifice quand même. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Enfin, voilà, assez souvent, ceux qui décident de la guerre... Bon, c'est pas ceux qui vont la vivre la manière la plus dégueulasse. Mmh. Eux, ils vont la vivre comme s'ils jouaient un jeu de stratégie, tu vois.
Moi, je te dirais qu'à la lecture, c'est sûr que, comme j'expliquais, c'était dans un numéro spécial avec 4 one-shots, on va dire. Et c'était très inégal. Faut dire que c'était... À chaque fois, c'était l'auteur qui allait suivre sur la série principale. Donc là, c'était Greg Pak qui avait écrit ce petit one-shot-là. Mais ça faisait qu'en un tout, là, en 4 numéros, un AFTA, on avait 2 prologues, dont 2-3 prologues. Même celui de Bounty Hunter, je pense que c'est même... En tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé des années avant la série. Hein. Donc, c'est ça. Tout ça mis ensemble, ça faisait un étrange... Moi, je me demandais à la lecture de ça où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Alors que celui, tu mentionnais celui de Star Wars, on va en parler dans une autre émission. Mais là, on découvrait 2 personnages que je me disais, bon, ben, c'est cool si on les revoit dans la série. Mais c'est ça, avec celle-là de Vador qui apparaît juste à la toute fin, bon, effectivement, je m'étais dit, on va peut-être être dans une série très bataille de l'Empire, là, tu sais, justement, parce que ce numéro-là, c'est ça, on est vraiment au sol avec des Stormtroopers, mais aussi les Death Troopers. Finalement, on va dans complètement autre chose, on va en parler là.
Ce qui est rigolo, c'est que... On n'a pas eu du tout la même manière de le lire. On a eu 3 façons de le lire différentes qui peut-être influencent aussi le ressenti, tu vois.
Bah oui, ça c'est sûr.
Bah, moi, ce que je me dis quand même, c'est que en VO, on va dire, ce recueil de ces 4 histoires était quand même censé, en fait, finaliser la série qui se terminait et lancer, c'est-à-dire donner envie aux lecteurs d'aller voir les séries qui allaient sortir, en toute sincérité, à la lecture de cet épisode, je parle juste de celui-ci, hein, j'ai pas plus d'envie d'aller lire la série Dark Vador.
Ouais. Non, ben c'est vrai que sur cet aspect-là, c'est peut-être... Ouais. Moi, je pense que Empire Ascendant, là, ça aurait dû être ce que tu viens de dire. Ça aurait dû être quelque chose qui nous... Soit des épilogues, comme ça a été le cas pour AFTA, c'était vraiment un épilogue. On fermait la parenthèse de l'autre série et là, on repart dans autre chose.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en VF, il a été, je crois...
Il était dans le dernier
volume. Dans le dernier volume, voilà.
Ouais, exact. Tandis que là, comme prologue, t'as raison, ça finit pas sur un gros cliffhanger, etc. Là, ça va vraiment être le premier numéro, là, je veux pas prendre le punch, mais qui va plus nous donner envie de lire la suite, tandis que ce prologue-là...
Que pour moi, vous voyez, on n'a pas du tout le même ressenti, parce que pour moi, ça m'a mis ça m'a mis énormément en avant la puissance de Dark Vador à travers le final, hein. Vraiment, c'est surtout ça qui est intéressant. Et pour moi, ça faisait un gros lien, et derrière, je suis dans le bouquin, waouh, je sens que ça va envoyer, tu sens une espèce de puissance du personnage.
Mais ça fait très Star Wars. Ça, Loïc, des fois, reproche à certaines BD de ne pas faire
non,
très
non,
Star Wars.
Y a pas... Non, non, bien
là,
sûr.
On est tout à fait dans l'Empire contre-attaque.
Exactement. Donc, Thomas, puisque tu as très envie, voilà, donne-nous le...
Alors, l'histoire ensuite, de ce Dark Vador. L'histoire de ce Dark Vador, le cœur sombre des Sith, en fait, c'est Dark Vador qui repense surtout à cette scène finale, hein, cette anthologie du cinéma où il revoit scène par scène et mot pour mot ce qu'ils se sont dit pendant l'Empire contre-attaque à la fin dans la bataille sur Bespin. Et donc, il prend avec lui un nouveau droïde qu'on n'avait pas vu, un droïde analyseur de données. Donc là, c'est la mode de l'intelligence artificielle. Donc, ils nous ont fondu un truc qui est assez sympa, d'ailleurs, ce droïde. Je sais pas si vous remarquez, parce qu'il amène un aspect comique et il fait tous les dialogues, ce qui permet à Vador, tout au long de la série, de ne pas parler. Et du coup, le fait que Vador parle pas, moins tu parles, plus t'as de charisme, et ben ça va dans le sens de Swan Shot qui, pour moi, mettait Vador vraiment comme un méchant hyper charismatique. Et là, ça marche super bien. Et il est là juste pour répondre de manière cinglante à ce droïde. Et clairement, ça le met vraiment, vraiment en avant. Et donc, il part justement à la recherche d'informations sur Luke. Il veut en savoir plus. Et il va remonter les doubles trilogies de George Lucas. Il commence par Tatooine. On y va en mode vite fait. Hein, donc, il se fait attaquer du coup par une bande de Wiccans qui se disent qu'il y a sûrement un truc à récupérer. Donc sur Tatooine, il passe par tous les lieux mythiques de la saga, y compris en fait la maison dans laquelle il a habité petit, et y compris donc le centre Tatooine. Et sur cette première partie du grand voyage de Dark Vador, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a des flashbacks sur la prélogie. Et ça, et à la fois la prélogie et sur les scènes de l'Empire contre-attaque. Et donc du coup, ça match tout ça et on voit vraiment les émotions. Pourtant, Dark Vador, il a son masque, il est stoïque, on n'a aucune émotion du visage, mais on ressent les émotions à travers le choix des vignettes et on le voit revivre finalement sa vie d'avant en tant qu'Anakin et tous les personnages qu'il a croisés pour devenir ce qu'il est. Et on voit monter le truc, en fait, de quand je suis petit garçon, et j'ai trouvé qu'il y avait... Est-ce que vous voulez que je fasse tout le résumé ou qu'on fasse des blocages par étapes?
Non, fais tout le résumé, Thomas, on donnera notre critique après.
Ah ouais, ok. Bon, bah alors, et donc, du coup, c'est assez intéressant, parce que à chaque fois, on a ces flashbacks qui nous font revivre des émotions. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un gros bonus. Ensuite, on va sur Coruscant, toujours avec Super Droid de données. Et là, il revit ses amourettes avec Padmé. Donc là, c'est intéressant. Et ça, il trouve en fait une puce, le petit droïde, qui l'emmène sur une planète qui s'appelle Vendaxa. Et donc là-dessus, il trouve Padmé. Enfin, ça, c'est le cliffhanger de fin où on se dit non, craquage, les gars, vous avez ressuscité Padmé. Je sais pas vous, moi j'ai eu super peur. Et en fait, non, c'est super intelligent. Mais je pense que les Américains, en attendant le mois d'après, ils ont dû se dire merde, franchement, Greg Pak, tu craques dès le départ.
Pas tout à fait à cause de la combinaison avec des sorties littéraires. Avec certains romans, ça c'était bien.
Ça correspondait.
Ouais, ça correspondait. Donc là, on se doutait fortement de qui c'était. Ouais.
D'accord. Et donc, du coup, il retrouve Padmé. Enfin, il croit retrouver Padmé, qui n'est pas Padmé, hein, mais bien évidemment, une de ses doublures, en fait. Il se met, du coup, à revivre, en fait, tout ce qu'il a vécu avec Padmé, les différentes étapes dans la prélogie, hein, de l'amour à la mort. Hein, ça, c'est aussi très intéressant. Et il y a plein de scènes qui sont montées en miroir, en fait, un peu comme l'épisode 7 était à l'épisode 4, quoi. Ça c'est aussi super intéressant parce qu'on revit ces trucs là et on sent que Vador il est ambivalent avec cette nana, que quelque part il a un coup de cœur et presque moi-même en vivant le truc, je tombais un peu amoureux d'elle à la place de Dark Vador parce que on sent vraiment plein de trucs. Alors je sais pas, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment plein d'émotions. Je pense que vous avez compris, j'ai adoré cet album. Et ensuite, donc, baston contre les espèces de monstres à tentacules. Ça, c'est anecdotique, c'est peut-être pas ce qui m'a le plus intéressé. Et donc, ils s'assemblent tous les deux donc, pour flinguer les bestioles. Et la fameuse doublure de Padmé lui dit qu'elle aussi, elle aimerait bien savoir qui a tué Padmé parce que c'est sa reine, etc. Et là, on sent une espèce de côté corporate là, de la part de tous les personnages qui ont pu croiser la route de Padmé. On sent que voilà, c'est un peu le général de Gaulle sur Naboo, quoi, Padmé. Je sais pas si ça vous parle, Francis, vous devez en avoir un. Voilà, c'est celui qu'on va citer dans tous les discours politiques parce que ça claque. Donc voilà, c'est un peu ça.
T'inquiète pas, je connais. Mon fils s'appelle Charles pour ça.
Ah, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Et donc du coup, ben voilà, on y va, on retourne du coup sur Naboo, forcément. Et donc, sur Naboo, on revit les scènes de Naboo, on retourne dans tous les endroits mythiques et on revit les scènes, donc ça, c'est à nouveau génial, on va pas trop redévelopper. On retrouve le capitaine Panaka et Tonra, donc lui, je m'en rappelais plus trop.
Dans un roman.
Ouais, alors, ok.
Ouais, il est justement ça. Dans les romans qui sont en lien avec les suivantes.
Mais on devait le voir dans les films aussi, non?
Moi, j'ai pas souvenir qu'on le voit dans le film.
D'accord, bah c'est pour ça que je l'ai pas checké alors, et j'ai pas lu le roman Padmé. Donc ça c'est intéressant. Et donc du coup ils font ami avec Vador et on va l'emmener. On reprend à nouveau le fameux vaisseau avec les bestioles qu'on avait dans l'épisode 1, le vaisseau sous-marin. Donc ça c'est assez intéressant aussi puisqu'on c'était gros, hein, c'était évident qu'ils allaient nous faire repasser par tous ces endroits-là. Et en fait quand ils arrivent, alors il y a un truc qui est génial. Je sais pas si vous voyez, ils nous parlent d'art à un moment. Et on voit cette scène, en fait, qui est assez mythique, justement, de la fin de l'épisode 1, de la réussite. Et on voit Palpatine, au fond, qui fait partie d'un des tableaux, du coup, qui a marqué l'histoire, hein, finalement, de Naboo. Et ça, c'est intéressant de la revoir, parce que nous, on l'a vu en film, donc ça, c'est assez cool. En fait, oula, on a perdu notre ami Francis.
Ah oui.
Espérons qu'il revienne, je pense que ça continue d'enregistrer malgré
tout. Oui, vas-y, continue. Il va nous rejoindre.
Et donc, en fait, on se rend compte que finalement, c'était un piège pour attirer Dark Vador et pour le tuer. Donc voilà, bon courage à cette bande de rebelles. Et en fait, le truc, c'est de faire venir la grosse bestiole pour qu'elle mange toute la compagnie. Bon, bien évidemment, c'est Dark Vador. Il va flinguer la grosse bestiole. J'ai adoré d'ailleurs à la fin le commentaire du droïde qui lui dit qu'il y a 83% de chance que la bestiole sont en voie de disparition suite au fait qu'il ait tué un monstre de 937 ans. Ça, j'ai trouvé génial. Parce que, à la fois, il y a un peu le raisonnement de... Ouais, c'est vrai que ça bastonne beaucoup dans Star Wars, mais ça nous rappelle l'importance de ce que c'est que la vie, même pour un monstre. Et donc, voilà, il y a un petit message. Bon, alors, moi, c'est moi qui vois des repères partout, des petites références partout, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et Dark Vador qui lui dit... Et alors je donne juste une info, t'en fais ce que tu veux. Ça, j'ai trouvé intéressant aussi. Ensuite, toute la population de Naboo vient pour le final, pour essayer de désinguer Dark Vador. La bande des copines de Padmé fait son retour également, comme Francis d'ailleurs.
Ouais, j'étais avec les copines de Padmé, justement. Voilà.
Et donc, on a une baston finale. Le fameux droïde de données qui repère tout le monde, donc ça c'est marrant parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un narrateur qui nous dit voilà ça c'est lui, on utilise le personnage pour faire la voix off, et ça c'est assez sympa. Donc grosse baston, mais Dark Vador ne les zigouille pas, alors vous me direz pourquoi vous, et il n'ose pas ouvrir le cercueil. À un moment où il utilise la force pour ouvrir le cercueil, il se revoit lui serrer le cou et là il dit ah non, j'y vais pas. Donc on sent qu'il y a encore, comme avait dit Padmé, un peu de bien au fond de lui. Et donc ça, c'est intéressant, ça nous fait penser à la fin de l'épisode 6. Là, on est en spoiler, personne ne le sait. Il va redevenir gentil. Et donc ça, c'est assez cool aussi. Et donc ensuite, on retourne à la maternité carrément. Et donc là, grosse attaque de la bande de Naboo, qui bien sûr se plante la gueule, puisque Dark Vador, on ne le zigouille pas comme ça. Et donc, là-dessus, il y a un final où le robot lui dit « Mais Obi-Wan, on entend souvent parler quand même, ça devait être un bon ami elle. » Et là, on coupe le droïde en deux. On sent que Obi-Wan, il y a encore beaucoup d'émotions de colère qui est présente. Et à la fin, quand il voit les dernières paroles de Padmé, alors là, moi, j'ai adoré ça. C'était vraiment le moment absolu. Il lui dit « Il y a du bon en lui, je le sais. Il y a toujours eu du bon. » Et on finit sur cette scène-là où il la regarde. Il regarde le robot péter en deux du haut. Et, enfin, je sais pas, moi, j'ai eu toutes les émotions qui sont arrivées en même temps. C'était fantastique. Et on voit justement Dark Vador qui se voit tomber lui-même à travers les différents âges, en fait. Et alors, ça, c'est fantastique. Parce que on sent bien que le mec, il est perdu, il est complètement perdu. Et qu'en fait, finalement, l'amour l'appelle, mais en même temps, la haine aussi. Et ça finit justement amour-haine avec notre ami Palpatine qui lui rappelle que faut pas se faire avoir par l'amour, c'est pas bien. Et que je vais te remettre un coup de haine et zzz, électricité, c'est parti. Et ça finit là-dessus. Et moi, franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Voilà, je vous écoute. Allez-y.
Alors, est-ce qu'on se fait pas avoir, parce que tu viens d'en parler, juste par le fait d'avoir dépensé 18 euros dans un résumé de la prélogie?
En partie.
Donc, moi, j'ai pas détesté le volume.
J'ai un copyright.
Non, c'était sympa, c'était intéressant à suivre. J'ai quand même senti beaucoup de redites. Alors, le fait de crossover avec l'ombre de la reine, donc, puisque Thomas t'en a parlé, donc des suivantes de Padmé, elles apparaissent dans les romans de l'ombre de la reine. Pardon, le premier, c'est l'ombre de la reine. Ils ont bien nommé toutes les suivantes, ainsi que justement Tondra avec Tifo. Avec Tifo. Donc vraiment, il y a une vraie cohésion avec ça, et ça c'est sympa d'avoir de traverser une autre œuvre Star Wars et d'avoir réutilisé. Donc ça c'est vraiment cool. Je suis d'accord sur la fin. La fin est vraiment vraiment sympa. La scène dans la maternité, l'évocation d'Obi-Wan et la façon dont ça se finit. On sent qu'il y a quelque chose qui monte et il y a une vraie bonne impression qui nous permet de refermer le volume en se disant « Ah ouais, c'était sympa quand même. » Mais par contre, franchement, j'ai trouvé tout le volume très plat. C'est-à-dire que si j'avais un encéphalogramme, ben, il n'aurait pas décollé vraiment jusqu'à la fin. Quoi. Voilà. Voilà, ça c'est mon avis. C'est correctement dessiné sans plus. Alors, il y a quelque chose quand même... qu'il faut rappeler, c'est que c'est déjà la troisième fois qu'on a un volume 1 de Dark Vador. Et les deux précédents volumes, pour ma part, ces deux précédents volumes m'ont bien plus hypé, m'ont bien plus plu que cette histoire de train-train. Alors, j'ai presque l'impression c'est une attraction Disney, quoi. C'est la. Il est sur le bateau et puis il revoit des scènes de sa vie et voilà, il a pas bougé de son bateau. Puis à la fin, il y a Obi-Wan, alors il vénère, il casse tout. C'est pas passionnant. Ça m'a pas passionné. Maintenant, j'attends plus que ça. Les premiers volumes des précédentes séries, c'était juste fou pour les deux histoires. Ouais. Ça partait dans tous les sens et on ressentait un Vador. Alors là, on a un Vador mélancolique, donc c'est. C'est bien, ça nous change un petit peu. Ça me rappelle un peu le roman légende de Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, qui présentait un peu un Vador de cette façon-là, mais beaucoup plus poussé. Bah, dans un roman, il y avait quand même.
James Luceno, non, c'est ça.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'était intéressant. Voilà, mais vous l'avez compris, ce premier volume m'a pas extrêmement emballé. En toute sincérité, si je ne devais m'appuyer que sur ce volume-là. Bah, je serais pas sûr de revenir pour le volume 2.
Ah ouais, à ce point-là.
Ouais. Alors, sachant que je sais ce qui se passe dans le volume 2, et ça me donne vraiment pas envie de revenir pour le volume 3.
Je crois. En tout cas, on va être en. Genre, j'ai laissé le truc spoilers. On va spoiler légèrement pour le prochain album, mais pour l'instant, ça a l'air. La série Vador, j'ai l'impression que ça va être un peu ce qu'on reprochait à la série Star Wars, là, 2015. C'est que chaque arc est séparé, il n'y a pas nécessairement de fil conducteur, etc. À moins que quelque chose, après plusieurs numéros, tu sais, en ressort. Puis là, de toute façon, on tombe dans la guerre des Bounty Hunters, là, des chasseurs de primes.
Oui.
Donc là, on va voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on a deux arcs très, très différents et qu'on ne voit pas vraiment de fil conducteur, nécessairement. Mais bref, je ne sais pas si t'avais-tu fini, Loïc? T'avais-tu d'autres points?
J'ai fini.
Moi, tu vois, je vais commencer par au niveau graphique, vu que j'ai pas grand chose à dire, on l'a pas mentionné, hein, mais c'est Raphaël et Lenko au graphique, et pour le prologue, c'était Roland Boschi. Donc moi j'ai trouvé ça joli quand même, surtout que avec que ce soit Sabé, la doublure de Padmé, là, son espionne, ou les autres, puis tous les personnages, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un certain défi en termes des visages, tout ça, fallait qu'on puisse reconnaître les personnages. Et ça, je pense, c'est réussi. Les vaisseaux aussi, j'ai trouvé que c'était très bien. Fait que c'est ça. Moi, quand il y a un équilibre comme ça, déjà, je me dis, bon, ben, c'est bien parce que souvent, on a un ou l'autre. On a soit les beaux personnages, soit les beaux vaisseaux. Aux couleurs aussi, j'ai trouvé que c'était quand même bien selon les ambiances. Parce que, comme tu as dit, Thomas, on passe de Tatooine à Coruscant de nuit, à Naboo, même Naboo sous-marin. Donc, tout ça, là, non. Côté graphique, je trouve que c'est quand même satisfaisant. Pour ce qui est de l'histoire, ben, ou des attentes, tu sais, c'est ça, avec le prologue, on y parlait un peu tantôt, puis avec la couverture du premier numéro, qui est aussi la couverture que Panini a choisie pour l'album, je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus guerrier, un peu plus bataille, etc. avec les Death Troopers qui accompagnent Vador. Là, on est plus dans un chasse au trésor ou, tu sais, enquête personnelle de Vador. L'éléphant dans la pièce, on ne l'a pas mentionné jusqu'ici, c'est que l'idée que Vador va enquêter sur Naboo puis sur Padmé, la mort de Padmé, tout ça, ben c'est recyclé parce que on a eu ça justement dans la première série de 2015. La différence, c'est que là, il envoyait Aphra enquêter sur Naboo à sa place, alors que là, l'idée, moi, je trouve, c'est beaucoup mieux livré, beaucoup mieux exploité.
Puis, c'est très cohérent avec la fin de l'Empire contre-attaque quand même, parce que maintenant, il a une certitude et il faut trouver quelque chose.
C'est ça, exactement. Et il se rend compte que c'est ça, il s'est probablement encore plus fait couillonner par l'Empereur qu'il pensait, ou il veut voir qui d'autre a joué un rôle là-dedans. Fait que non, c'est ça, je trouvais l'idée quand même intéressante, parce que autant, puis on en parlera dans une autre émission sur l'album de Star Wars numéro 1, mais autant les autres, on peut dire, OK, bon, ben pour Lando, faudrait qu'il creuse ça, pour Leia, pour, tu sais. Tandis que là, pour Vador, après l'Empire contre-attaque, quand on se dit qu'est-ce qu'il pourrait bien faire, puis tu l'as mentionné tantôt, on a eu la série de 2015, de 75 numéros, quelque chose comme ça, 73. On a eu la série Le Seigneur Noir des Sith de Charles Soule, de 4 albums, hein, qui était vraiment excellent. On a eu, Vision, on a eu, tu sais, fait que Vador est quand même surexploité, puis dans ce sens-là, mettons que tu t'appelles Greg Pak, tu reçois comme contrat d'écrire la suite des aventures de Vador après l'Empire contre-attaque, ben, il faut quand même que tu fasses creuser un peu ton imagination là, pour trouver quelque chose d'intéressant. Fait que moi, cette idée-là, puis surtout, dès la fin du premier numéro, le confronter à Sabé, qui en plus, dans l'ombre de la reine, on sait qu'elle survit à la fin. Bon, ben là, c'est plus un spoiler, c'est pour ceux qui ont lu cet album-là. Mais justement, elle est mise en relation avec des rebelles, etc. Donc, tu sais, tout ça s'imbrique bien. Puis moi, c'est ce que j'adore justement quand les différents médias s'imbriquent ensemble. Et Sabé, c'est un personnage que je trouve encore plus intéressant que Padmé. Parce que Padmé, j'ai toujours trouvé plus irritante qu'intéressante. Mais ouais, Sabé, c'est la guerrière du groupe, là, l'espionne, etc. Donc, tout ça mis ensemble, c'est sûr que sur le coup, quand tu vois un Gungan, tu fais « Ah non! » Un Gungan commando. Mais c'est ça, après ça, tu comprends là, qu'est-ce qu'il faisait là. Déjà aussi, le retour à Tatooine, tu l'as dit, il passe par... il était déjà retourné sur Tatooine, hein, tu sais, il était allé dans l'autre série de 2015, mais là, dans le fond, il va dans la maison des Lars aussi, tu sais, puis... je peux parler tout de suite, d'ailleurs, des flashbacks. Moi, je m'étais noté peut-être un peu trop de flashbacks. Mais j'aimais le concept, ça rappelait justement la série de 2017 de Charles Soule, Le Seigneur Noir des Sith, où est-ce que justement, souvent, on était dans sa tête. Ça permet, comme tu disais Thomas, pour un personnage qui parle presque pas, ben justement de comprendre sa psyché, là, pis tout ça. Mais t'as pas tort que c'est du Reddit un peu de la prélogie. Moi, j'ai trouvé ça bien, évidemment, faut aller puiser dans ses émotions, ses souvenirs. Mais j'aurais aimé qu'on ait ces souvenirs un peu en variante. Tu comprends? De ne pas voir exactement les mêmes plans que dans le film. De voir d'autres petits éléments qu'on n'avait justement pas dans le film. J'aurais même pu aller chercher dans des scènes supprimées. Là, dans l'attaque des clones, on avait beaucoup de scènes supprimées là, d'Anakin avec Padmé. Mais bref, c'est ça. Sinon, j'ai pas détesté quand même l'aspect flashback parce que comme Thomas disait, c'est mis en parallèle aussi avec ce qui se passe au présent. Donc, c'est ça. Mais au final, quand tu prends tout l'album au complet, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. Petit détail, sur Tatooine, le vaisseau des maraudeurs qui l'attaquent était un U-Wing, mais modifié, un U-Wing avec encore plus de moteurs et tout ça. J'ai trouvé ça intéressant quand même. Et on sait que, bon, Tatooine, hein, c'est une place de Jabba et de criminels, etc. Sinon, le robot le droïde dont tu as parlé, Thomas, j'ai trouvé au niveau personnalité, c'est intéressant. On comprend qu'un être vivant aurait pas été toléré par Vador comme ça aussi longtemps. Un être vivant qui aurait été aussi agaçant. Mais là, vu que c'est sa base de données, c'est son droïde de voyons comment on dit les bêta données, là, tu sais, un analyste là, que lui, il ne peut pas faire autant d'analyses que ça, donc il tolère jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus de besoin.
Jusqu'à ce qu'il craque, qu'il dise le mot qu'il ne faut pas. Quoi.
Ouais, exactement, quand il dit Obi-Wan. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup du design du droïde était basé sur la série des K2, donc sur K2SO et compagnie. La tête, non, mais beaucoup des jambes, puis du torse, puis des bras, c'est ça, c'était...
Bah, moi, c'est au niveau du haut du bras, je trouve que ça se remarque bien.
Mm-hmm. Fait que non, c'est ça, fait que pour ce qui est de l'inspiration du dessinateur pour tout ça, ou de, là, je sais pas si c'était écrit par Greg Pak comme ça, mais j'ai trouvé ça quand même bien. J'ai parlé de la ferme des Lars, j'ai beaucoup aimé aussi après ça, tu sais, c'est un peu, quand je disais course au trésor, c'est ça, il fait plusieurs places. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, il retourne à l'appartement de Padmé qui a été scellé un peu comme un, comment on dirait ça, un tombeau, là, tu sais, où, fait que lui défonce complètement le tout, mais c'est ça, j'ai trouvé ça le fun, on l'avait jamais vu, ok, Vador retourne dans l'appartement où est-ce que, tu sais, il était tout le temps avec Padmé, fait que les souvenirs, tout ça. Après ça, Naboo, moi, personnellement, c'est une planète que j'adore explorer. Que ce soit la culture de Naboo, l'architecture, etc., puis que ce soit côté Gungan ou que ce soit côté humain, là, les Naboo. Fait qu'à chaque fois qu'on y retourne, là, je commence à trouver que ça fait plusieurs occasions qu'on y retourne, mais je continue de trouver ça beau, trouver ça bien dessiné, tout ça. Fait que c'est ça. Mais oui, tu sais, t'as la balade en sous-marin. Bon, tu te dis qu'il va se faire. C'est sûr qu'ils vont se faire attaquer par des monstres.
Ah, bah, c'est évident.
Ils se font attaquer par des monstres. Mais, puis tu sais, je sais pas si on doit dire les rebelles, en fait, parce que Sabé, dans le fond, a comme fondé une société secrète, on va appeler ça comme ça. Ça s'appelle les Amidaliens, je pense, ou Amidalans, hein, en anglais. Et ben, c'est ça, c'est tous les gens qui veulent lui rendre justice en découvrant... mais eux, en sont encore convaincus hein, qu'Anakin est mort. Puis, tu sais, ils vont attaquer Vador au nom d'Anakin. Ils vont mourir en disant pour Anakin.
Oui, c'est ça, ouais, c'est ça.
Justement, et je te coupe, Francis, parce que on va bientôt dans une autre émission chroniquer aussi l'autre volume numéro 1, dans lequel on va nous développer exactement l'inverse au sujet d'Anakin Skywalker. Et il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Alors là, c'est plus cohérent, parce que, comme tu l'as dit, effectivement, elles ont vécu la relation de Padmé avec Anakin, puisqu'elles l'ont vu grandir. Donc elles sont vraiment au cœur de la confidence, donc pour elles, il n'y a pas de doute possible que Anakin Skywalker, le Jedi, est mort. Parce qu'en plus, à la fin de l'épisode 3, quand elle s'en va pour le rejoindre sur Mustafar, j'ai pas souvenir qu'il y ait, dans les appartements, il n'y a pas de suivante qui est près d'elle.
Non, et dans le livre non plus, dans L'Ombre de la Reine, à la fin, ils sont convaincus qu'Anakin est mort, etc. Mm.
Et par rapport au robot, il y a un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène-là, quand les Amidaliens arrivent, et justement, pour illustrer le côté charismatique de Vador, il lui dit « bah voilà, ça risque d'être facile, plus facile à dire qu'à faire, et à cause des Amidaliens ». Et le Vador lui dit les Amidaliens, et puis l'autre il lui répond je le crains, Seigneur. Il dit pas moi, et je trouve que ça fait trop badass quoi. Et,
oui, mais moi par contre, tu vois, vu que tu parles de cet instant là, j'ai trouvé que c'était le moment faible ou illogique de la. Parce que tout le long que Vador s'allie, parce qu'au départ il essaie de s'entretuer, hein, ben pas Vador, vu que lui il pense que c'est Padmé au début, ou tu sais. Mais Sabé essaye de le tuer. Il y a plusieurs tentatives. Ils vont jusqu'à essayer de le faire bouffer par un monstre marin exprès. Fait qu'il va y avoir plusieurs tentatives de l'assassiner.
Il n'y arrive pas parce qu'il voit Padmé.
Ouais, exact. Mais de toute façon, pendant un temps, la position de Sabé, c'est logique qu'elle accepte de collaborer aussi. Parce que de toute façon, soit elle meurt pour rien, inutilement, sur place, soit elle collabore avec lui, qui de toute façon est à la recherche des mêmes réponses qu'elle. Donc, tu sais, il y a une certaine logique. Mais à la fin, ça, cette mission-là sur la Lune, là, hôpital, là, où est-ce qu'on finissait la revanche des Sith, je me disais, puis c'est Vador qui les a carrément invités, là. Après, il leur a dit, va chercher tes troupes, là, puis venez me rejoindre sur cette Lune-là.
Ouais, ils voulaient se défouer, quoi.
Oui, mais il suffisait qu'il y ait la force de frappe. Tu comprends? S'il y avait eu des explosifs assez forts pour faire exploser tout simplement le caillou au grand complet, c'était fini de Vador, là. Tu comprends? Tu sais, c'était. Ouais. Parce que j'ai trouvé ça un peu.
C'est ça qui me dérange dans ce volume principalement, c'est que Vador vient de finir l'Empire contre-attaque. À mon avis, il y a bien d'autres choses à s'occuper que de partir en mission dans toute la galaxie pour revivre une histoire qu'il a pas envie de revivre et pour s'allier avec une suivante de son ex-conjointe qui tente de l'assassiner. Moi, je veux dire, au bout de la deuxième tentative d'assassinat, Vador, il doit la trucider, quoi.
Alors là, je suis pas d'accord.
Quel est le visage de Padmé ou pas. Vador, ouais, on peut pas l'attaquer autant de fois sans que...
Et ben justement, c'est ça
aussi la source d'information qu'elle représente aussi, par contre.
Oui, mais ça, ok, ça je suis d'accord, mais dans ce cas-là, il aurait pu trucider tous ceux qui étaient avec elle et dire, bah maintenant, toi, tu vas me conduire là où j'ai besoin. Ça, c'est Vador.
Ouais.
Même si elle a l'usage de Padmé.
Ce qui est intéressant dans ce volume, et je vais faire la contre-critique de Loïc parce que ça m'embête que tu l'aies pas aimé. Tu sais, avec l'épisode 7, j'avais réussi à te faire changer d'avis. Donc, je tente ma chance. Moi, ce que j'ai vu de puissant dans ce tome, c'est qu'en fait, effectivement, on a déjà épuisé tout ce que Vador faisait. Et donc là, on est sur un tome qui se passe... En fait, l'action, elle se passe à l'intérieur de lui-même. C'est ça qui est intéressant. Et quand on parle des émotions qui revivent, je sais pas, vous, des fois, ça vous arrive peut-être, vous êtes vautré chez vous, vous faites pas grand-chose, et vous mettez à revivre des trucs intérieurement, eh ben, c'est peut-être beaucoup plus large qu'une journée de boulot où vous allez faire plein de trucs. Et si tu veux, là, à mon sens, vu ce qu'il vient de vivre avec son fils... si tu veux, ça l'a bouleversé, et Luke aussi de son côté ça l'a bouleversé, et donc pour moi c'est logique qu'il aille chercher des choses. Ça, il est complètement émotionnellement bouleversé, et c'est pour ça que du coup il est le gros Vador badass qu'on connaît, mais en même temps certains éléments le font vriller, et quand il retrouve un semblant de Padmé, il est paumé. Et justement, ça montre bien le contraste entre je tombe sur un mec, je te le désingue en deux secondes et sans pitié, et je montre que je suis badass dans tous les cas, machin, mais avec elle, hop, talon d'Achille. Et c'est ça qui est intéressant. Et on voit le lien à chaque fois avec Padmé, des moments où il va faire un truc, ah non, je le fais pas, parce que il est paumé. Et d'ailleurs, Palpatine, quand il le chope à la fin, il l'a bien senti dans la force, et il lui dit, attends, pépère, je t'avais mis sur les rails, mais là, tu déboulonnes. T'as vu toute la compagnie, les rebelles, les faibles, les machins. Bah ça y est, tu recommences à vriller, donc je vais t'en remettre sur le droit chemin.
Justement, Thomas, c'est que Vador, et je vais refaire la comparaison avec ce livre Légende, dont je parlais tout à l'heure. Qui est très bien, et il sait exactement ce qu'il nous est raconté, c'est-à-dire cette mélancolie qui l'amène en fait à la rage. Et justement, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec la caractérisation qui est faite dans ce volume, c'est que Vador, justement, quand il voit quelqu'un qui a le visage de Padmé, ça doit le foutre en colère, et ça doit justement l'empêcher, cette colère, comme Palpatine lui rappelle à la fin, cette colère doit l'empêcher de tomber dans les émotions que tu as mises en lumière. Et non, alors, évidemment, comme d'habitude, ça parle de l'image que j'ai, moi, de Vador, par rapport à ce que j'ai toujours compris de lui au sein de l'univers Star Wars. Là, peut-être que c'est une vision d'auteur qui ne me parle pas. Je veux dire, si c'est le nouveau Vador...
Il vient de couper la main de son
fils,
quand même. Hein. Tu vois ce que je veux dire, hein. C'est un moyen de te... Enfin, tu vois, moi, je couperais la main de mon fils, j'ai beau être vénère, je me dirais, ah, peut-être quand même que... Peut-être me poser une ou deux questions, tu vois. Enfin, même si je suis un grand méchant, tu vois.
Je sais pas, t'es Dark Vador, c'est même pas...
Il n'y a pas marre, c'est que... Mais je comprends ce que tu dis. Moi, effectivement, un peu comme Thomas, j'ai mis ça sur le compte du bouleversement émotionnel qui vit intérieurement. Fait que, mais bon, c'est vrai que c'est pas le même Vador qu'à la fin de Rogue One.
Mais même sans aller aussi loin, mais à partir du moment où il se rend compte, en fait, passé la stupéfaction, que ce n'est pas Padmé, ben justement, alors même s'ils sont très respectueux, les Amidaliens sont respectueux de Padmé, etc. Et justement, ça devrait le mettre en colère aussi. Non, parce que Vador, il l'explique bien. Anakin Skywalker est mort. Donc tout ce qui touche à Anakin Skywalker,
ça, c'est ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il ressent.
Il se ment à lui-même, il essaie de se convaincre.
Exactement.
Peut-être. Après, effectivement, Charles Soule nous a montré qu'il avait cherché à ramener Padmé d'entre les morts.
Ouais.
C'est-à-dire, mais quelque part, alors si je déroule mon fil aussi, et si j'ai envie d'être un peu de mauvaise foi, si j'ai essayé de ramener... J'ai tué ma compagne. Bon, je veux déjà pas l'accepter. J'ai essayé de la ramener d'entre les morts. J'ai pas réussi. Bah, quand je vois une nénette qui lui ressemble, j'ai pas du tout envie de m'allier à elle. Je suis putain en colère du fait qu'elle soit morte et de pas avoir réussi à la ramener sans faire copain-copain avec elle, quoi.
Parce donc tu la lettes. Donc tu la lettes.
Non, je dis pas qu'il est obligé de la tuer. Après, une fois qu'elle a essayé d'attenter à sa vie deux fois, lui, il faut peut-être qu'il... C'est Vador, quoi. Et c'est pas parce qu'elle a le visage de Padmé ou qu'ils ont un visage très proche que ça doit ça peut pas excuser. Parce qu'il sait que c'est pas Padmé.
Ben, moi, c'est ça. J'ai pas mis ça très longtemps sur ça. Peut-être au tout début, là, le début du deuxième numéro. Mais une fois que tout est mis en place, j'ai vraiment plus vu ça comme il l'utilise pour justement les informations qu'elle connaît.
Mais ça,
elle
ouais.
est au courant de tous les secrets, etc. Donc là, c'est là l'utilité.
Ben, évidemment, ça,
tu pourrais me répondre, il y avait juste à la torturer mentalement là, pour y extirper des informations.
Bon, ça,
Mais bon, ça fait moins intéressant visuellement.
Mais en fait, ce qui me pose un problème, c'est que j'ai l'impression, à la lecture de ce volume, en fait, j'ai l'impression qu'il n'avait rien à raconter. On lui a filé la série Vador. Bon, ben voilà, trouve-nous une histoire. Ben, partie de l'Empire contre-attaque. Ben, maintenant, j'ai vu mon fils. Alors, ça fait quand même 3 ans qu'il est au courant qu'il a son fils. Parce qu'on l'apprend à la fin du premier volume du Star Wars Origins. Enfin,
ouais, Dark mais Vador il s'est original. Pas passé ce qui s'est passé dans les précédents.
Ok, d'accord. Mais c'est seulement maintenant qu'il part à la recherche de la mère.
Ouais, effectivement. Mais c'était pas prévu non plus qu'il le fasse. On le voit que dès le départ, Palpatine essaie de le contacter, puis ses officiers disent « Ben, Seigneur ouais. Vador vient de quitter dans une navette, on sait pas où est-ce qu'ils vont. »
Oui, parce que ça le travaille. Mais les gars, ça le travaille depuis qu'il a appris qu'il avait un fils.
Ben oui. Ben en fait, dès le départ, l'album commence sur lui aussi se remémore les instants de l'Empire contre-attaque quand il coupe la main de Luke là, qui Luke qui chute.
Et c'est clairement ça qu'il a.
Ah oui, mais ouais. Ça d'accord, mais ça c'est ça, très
d'ailleurs,
bien posé,
d'ailleurs. On l'a pas dit, hein, mais c'est en parallèle dans les deux séries parce que la série oui. Star Wars commence ça exactement commence de la même façon. T'as Luke qui se remémore les mêmes choses. Fait que moi j'ai vraiment lu les deux en parallèle là, au fil des semaines.
Puis j'ai lu les deux dans la journée, donc je peux te dire que.
Mais ça me faisait penser à 2015, justement, où est-ce que les deux séries étaient parfaitement oui. parallèles. On voyait même la même scène oui. d'un point de vue oui. ou de l'autre.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vrai. Mais voilà, prenant parti juste pour ce volume, moi, il y a quelque chose dans la caractérisation de Vador qui me dérange. Alors, c'est pas la première fois que je le fais remarquer. Peut-être, je peux poser la question, que, comme on le disait tout à l'heure, la surexploitation de Dark Vador... Mm-hmm. Ça fait quand même pas du bien au personnage. Là, on est à 3 séries régulières, plus les mini-séries, plus toutes les apparitions dans d'autres séries, c'est pas fini. Mmh. Plus Rogue One, plus la série Obi-Wan. J'adore Vador, mais tu vois, Thomas, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que Vador, il fonctionne justement par aussi sa rareté, aussi parce que, par exemple, il ne parle pas, parce que c'est un personnage qui ne se confie pas. Donc, c'est ça qui fonctionne aussi chez lui.
Mm-hmm. Mais si j'avais dû virer, tu vois, moi, des trucs de Vador, je suis d'accord qu'il est trop exploité. C'est clairement pas celui-là que j'aurais viré. Parce que pour moi, celui-là, il répond vraiment à des questions que je m'étais posées. Je m'étais toujours dit, putain, mais après l'Empire contre-attaque, mais qu'est-ce que Luke et Dark Vador peuvent bien se dire? Franchement, c'était vraiment des questions que je me posais. Alors, après, qu'on critique, si tu veux, le choix qui a été fait de dire, voilà ce qu'il ressent. Tu vois, j'entends. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et le choix qu'il a fait, on peut dire, voilà, moi, je l'aurais pas traité comme ça, mais. Pour moi, il est cohérent avec lui-même au sein de l'album, tu vois.
Mm-hmm. Ben, faut se demander aussi, parce que c'est un tome 1, donc est-ce que ça pose une bonne base pour une série, qui va être une série ongoing? J'ai trouvé que ça posait pas une mauvaise base, mais j'ai été déçu. Ben, on en reparlera dans une autre émission.
Ben, c'est ça.
Pour la série 2015, il l'avait arrêté au numéro 25, alors que le Star Wars, ouais. ils l'ont continué jusqu'au, je sais plus combien, 67, un truc comme ça. Tout simplement, parce qu'à un moment, il l'avait dit, il n'avait plus grand-chose à dire, quoi. Tu
non,
vois.
C'est ça, c'est le problème avec Vador. Il faudrait vraiment...
Mais tant mieux, ils l'arrêteront.
Non,
celui-là, il était utile pour moi.
Justement, jusqu'à quel numéro on va aller avec cette série, puisque, bah, à mon sens, hein, puisque ce premier volume... Donc, les 6 premiers épisodes, pour moi, hein, racontent très peu de choses. Ça me fait extrêmement peur de tenir 30, 40 ou 50 épisodes d'une série qui mm-hmm. n'a rien à raconter.
Mm-hmm. Ben, en fait, je pense que ce qui est dur, c'est d'arriver avec de l'originalité en termes de... Parce
oui,
que là, effectivement, c'est du déjà vu dans le sens que, bon, ben, c'est cyclé pour... Mais tu sais, on peut se dire que c'est cyclique pour Vador, mais c'est ça, il penche un petit peu trop côté amour, souvenir, etc. Palpatine va le ramener à l'ordre. On a déjà vu ça aussi, là.
Donc, ben justement, on l'a déjà vu, quoi.
Mais
est-ce qu'on a vraiment envie de le revoir?
Ouais, mais reste à voir aussi le lousse que le story group laisse aux auteurs. Là. Peut-être qu'il y a des idées plus farfelues qui justement sont bloquées parce qu'on est quand même entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. On peut pas partir non plus dans tous les sens avec le personnage.
Non, parce qu'il y a quand même un statu quo. Enfin, il faut pas oublier quand même qu'il y a une étoile de la mort qui est en construction. Mm-hmm. Moi, à la fin, quand lui, il a gagné sa bataille de Hoth, qu'il a réussi quand même à foutre une dérouillée aux rebelles, À mon avis, l'empereur, il le rappelle en lui disant, il serait peut-être temps d'aller voir la construction de l'étoile de la mort parce que c'est peut-être le bon moment pour leur foutre une branlée.
Ils vont aller changer la doublure de Galen Erso.
Mais ouais, de toute façon, Loïc, toi, tu ne voulais surtout pas que.
Non, déjà,
ça, mais alors, qu'on explore la période après l'Empire contre-attaque. Donc,
tu rigoles parce que.
Ça va être dur à satisfaire.
C'est ça. En fait, avant qu'on commence cette émission, je repensais à mes avis sur les volumes et je me disais, est-ce que mes avis dépendent aussi de cette impression que j'ai, enfin, de cette chose que je ne voulais pas voir? Mm-hmm. Ça peut conditionner mon ressenti sur ça. Ça, plus le passif de séries qu'on a déjà vues, qui m'ont plu, ou plus ou moins, ça dépend des volumes, en tout cas, dont les premiers épisodes m'avaient plus enjoué que ces 6 épisodes-là.
En tout cas, moi, pour conclure sur l'appréciation de celle-là, moi, je dirais que j'ai beau me creuser la tête, j'ai trouvé limite original celui-là, parce que je manque d'inspiration pour me dire on aurait pu aller dans tel sens ou dans tel sens. La construction de la deuxième étoile de la mort n'était pas mauvaise, mais en même temps, on a vu beaucoup des affaires sur les secrets de la première, avec tout le pré-Rogue One et tout ça. Donc, est-ce qu'on serait vraiment original? Je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que pour celui-là, Greg Pak livre quand même ce qu'on lui demandait. Mais effectivement, ça ne pourra pas être une série de 75 numéros, là, c'est impossible, là, parce qu'à un moment donné, on tourne en rond. Donc voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est ça, je peux pas non plus y enlever trop. Ce serait à Marvel que j'enlèverais des points, tu comprends, mais ils voulaient une série sur Vador. Moi, je suis le premier à dire que Vador, il y en a un petit peu trop, là. Mais ils veulent une série pour Vador parce que dès qu'il y en a une, ça se vend.
On est d'accord, je veux dire, en plus, la couverture avec Vador en pleine page, on est là pour ça, Dark Vador, on sait que ça va vendre. Justement, si ça vend, faites-nous quelque chose qui va impacter le personnage, qui va être intéressant, qui va donner envie aux fans de venir lire de la littérature Star Wars.
Mm-hmm. Mais moi, celui-là m'avait m'avait quand même hypé pour la suite. Bon, c'est ça, j'ai déjà spoilé que j'étais un peu déçu de l'arc suivant, là. Mais c'est ça. Puis d'un autre côté, je pense que c'est vraiment Charles Soule qui aurait pu refaire le miracle qu'il a fait avec le Seigneur des Sith, avec l'arrivée de quoi de complètement inattendu, tu sais. Là, Charles Soule est utilisé sur la série principale Star Wars. À un moment donné, il peut pas être partout non plus, sans parler de la Haute République.
Là. La Haute République. Mais ce que tu mentionnes est très juste, tu vois, c'est que pour la précédente série, ils ont réussi à tenter quelque chose de nouveau. En ramenant les Inquisiteurs, etc., en développant toute cette catégorie de personnages, ils sont partis dans quelque chose où on ne les attendait pas, et au final, ça a fonctionné. Enfin, en tout cas, sur nous, ça a marché. J'allais vous proposer des notes. Je ne peux pas le saquer, parce que... je peux pas le saquer parce qu'il correspond pas à ma vision que je me fais de Vador.
Non, mais mets ta note.
Attends, je m'explique.
Globalement... Il veut justifier sa mauvaise note, là.
Ce que je veux dire, mais mets la note que tu ressens, quoi. Enfin,
je veux dire, mais je
on va pas te juger.
Non, mais je vais l'expliquer parce que.
On va le juger.
Peut-être que ça correspond pas. que ça correspond pas à la vision que je me fais de Vador, mais au sein de l'album, l'histoire se tient bien et elle est cohérente au sein de l'album. Donc là-dessus, je peux pas. Visuellement, je trouve ça pas fou. On a vu des choses bien plus inspirées, mais c'est pas non plus mauvais, c'est quand même très correct. Donc je vais lui mettre un 12.
Oh, je m'attendais à bien pire que ça.
Non, mais en fait
j'ai dit que je pouvais pas saquer.
Avec ce qu'il a dit,
Non, je pouvais pas le saquer.
Toi, Tom?
Non, je mettrai un 18. Moi, je mettrai un 18. Parce que, comme quoi, tu vois. Et tout simplement, ça correspondait à un truc que j'attendais. Et je trouve qu'en termes d'émotion, il est passé par toutes les cases. Ça répond à des questions que je m'étais posées. Pour moi, il est utile, pas pour l'histoire, mais pour l'aspect psyché des persos. Vraiment, je trouve que c'est... parce que souvent, même dans les films, on le voit encaisser des trucs, ce personnage. On sait jamais ce qu'il ressent, et là, sans qu'on voit d'expression de son visage, il y a plein d'émotions qui sont passées, et pour moi c'est cool. Et à noter que Les deux tomes, je les ai lus avec le groupe que tu m'avais conseillé de... Il me semble que c'était toi, Francis, la dernière fois, qui m'a envoyé un AMV de Rogue One avec eux, d'ailleurs. Voilà, c'est Battle ça, donc, ça vient de toi. Voilà, qui m'avait dit de me mettre sur Battle Beast, je suis très fan de rock, et là, je m'étais dit, bah, de toute façon, là, j'ai du temps, je me mets la journée là-dessus, j'ai adoré. Et du coup, je pense que, on le sait, quand on écoute de la musique, ça augmente en plus les émotions. Moi, j'ai pris des claques tout le long. Enfin, c'était, voilà, mais peut-être que c'est l'effet de la musique aussi qui a intensifié le truc.
C'est ça, tu vois, il fallait écouter du métal finlandais.
Voilà. Exactement, j'étais sous cocaïne, donc voilà, c'est ça qui
m'a voilà. Moi, je suis très, très envieux de Thomas de pouvoir ressentir ces émotions-là à la lecture de ce genre d'album.
Ben, moi, écoute, tu vois, j'irais pas au même niveau que Thomas parce que c'est des notes que j'ai données plus à la série de Charles Soule, justement, Le Seigneur Noir des Sith, où est-ce que là, je trouvais qu'on frisait la perfection à chaque fois. Je pense que j'avais même mis 20 sur 20 à un des albums, je pense, oui, que le premier. Mais cette fois-ci, je donnerais un 75%, avec un 15 sur 20, je trouve quand même mérité. Fait que finalement, on est moins éloigné, parce qu'au début de l'émission, je me suis dit, ça y est, Loïc va mettre 6, Thomas va mettre 19-20.
Non, au final, on a une moyenne de 15 sur 20, ça, nos trois notes additionnées, ouais, ça fait 15 quand même.
Ben, c'est excellent, messieurs.
Voilà. Messieurs, ce que je vous propose, c'est que on atterrisse et puis qu'on puisse encore débriefer un petit peu avant de nous quitter.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Ben voilà, c'est parti, messieurs. Est-ce que vous avez envie de nous partager des petites geekeries? Alors Thomas, des geekeries Star Wars, s'il te plaît, afin que cette émission déjà longue ne dure pas trop dans le temps encore pour nos auditeurs.
Je vais donc faire les geekeries Star Wars, et pour le Star Wars numéro 1, je ferai les geekeries hors Star Wars. Donc forcément, grand classique, mais super à la bourre quand même. Je me suis mis dans la Haute République. Forcément, c'est du Charles Soule. D'ailleurs, il y avait des liens dans le Star Wars 1, c'était super sympa. Oui. Donc, j'ai adoré La Lumière des Jedi, je suis en train de le finir, je trouve que ça me fait penser, c'est un peu le Vector Prime, en gros, de la Haute République. Il pose un décor énorme et ça donne envie pour la suite, et il est vraiment très très juste, Charles Soule, quand il décrit les Jedi et la Haute République, j'adore, c'est très bon. La Bad Batch, j'étais complètement à la bourre, ça partait hyper mal, pour moi ça allait faire un Résistance bis. Et là, je suis passé à l'épisode où on voit Rex, et là, ça y est, c'est parti. Ça y est, je sens que ça monte, là. Donc, si on n'avait pas fait Star Wars en direct ce soir, j'étais dessus, c'est évident, quoi. Donc, on regarde ça avec les gosses, en plus, quand on a vu Rex, comme des dingues, super bien traité. Ça y est, je sens que c'est bon. Je sens que, voilà, la hype est là. Et je vous ai écouté sur l'émission, là, avec Mouchou, du coup, j'étais mort de rire en écoutant le truc, c'était trop bon, quoi.
C'était la première émission débrief.
Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai fait court.
C'est bien.
Oui.
Francis.
Moi, de mon côté, je suis en vacances. Ces temps-ci, c'est assez mollo. Je suis dans... J'ai lu la version française, justement, comme Thomas, de La Lumière des Jedi, avant de me lancer dans la suite que j'écoute en ce moment en audiobook, là, qui est... Out of the Shadow, mais...
En pleine ténèbres.
Oui. Non. En pleine ténèbre et pas vraiment la suite, c'est un peu un à côté.
Oui, non, il parle de la deuxième vague.
Oui, Rising Storm, The Rising Storm. Donc, Rising Storm est le deuxième roman adulte, tandis qu'En pleine ténèbre était le premier young adult, et il y a un deuxième young adult qui sort là, d'ici quelques jours, qui va s'appeler Out of the Shadow. Mais bref, The Rising Storm, j'avouerais qu'après, j'ai 4 heures d'écouter environ, et j'ai un peu de mal embarqué. Je sais pas, j'ai hâte là de c'est écrit par Kevin Scott cette fois-ci, un habitué quand même là de Star Wars, mais plus sur du jeunesse. Fait que c'est ça, j'ai un peu de mal à accrocher. Ça sera pas, je mettrai pas la note parfaite comme j'ai mis à Charles Soule là, pour La Lumière des Jedi, mais en tout cas c'est quand même bien et les liens sont, tu sais, c'est très 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 lié. Là. On voit qu'il y a vraiment un travail de coercition entre les cinq auteurs là, de la Haute République. Sinon, c'est ça, c'est limite un peu Star Wars. Ben, j'ai tout changé mon setup de comment dire, dans mon salon. J'ai tous mes casques et qu'on voit les boîtes derrière. Avec toutes les pops, là, ça finit plus, le nombre de pops et tout ça. Fait que j'ai fait une méga bibliothèque,
faire ce truc.
Tout un mur. Sinon, ben, vous voyez les deux derniers arrivés, donc le casque de l'autre côté de Mandalorian et celui de Wedge Antilles, que je trouve magnifique. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et celui de Mandalorian, si vous avez un casque à acheter, évidemment, il y a Vador qui est très classique, mais celui de Mandalorian là, vaut le détour. Vaut vraiment, puis il est un peu plus cher que les autres étaient avant, mais le fini stainless, là, on va dire, c'est pas tout à fait stainless, c'est plus acier. De loin, on jurerait que c'est pas du plastique. L'intérieur, l'extérieur, bref, tout est nickel. Là, c'est vraiment magnifique. Fait que je vous le conseille. Et sinon, c'est ça, des petits travaux manuels. J'avais déjà dit dans d'autres émissions que je travaillais sur un casque aussi personnalisé. Sur des pop aussi, parce que je déteste le pop du Stormtrooper traditionnel blanc. Tu sais, c'est un pop qu'ils ont jamais renouvelé. C'est encore la version comme les premiers, là, la première batch qu'ils avaient fait il y a des années, qu'ils ont des yeux ronds sur le casque. Vous comprenez, c'est pas la forme du casque normal, c'est des yeux ronds. Ils avaient fait la même chose avec Vador, des yeux ronds sur le casque, je trouve ça dégueu. Donc, à la place, on a acheté une autre version du Stormtrooper qu'on repeint en blanc et on va faire les détails en noir et en bleu, tout ça. Donc, c'est pas mal ça côté Star Wars ces temps-ci.
Mais quant à moi, c'est un peu calme en ce moment parce que j'ai bizarrement beaucoup, beaucoup de temps, mais là, je suis plus sur une hype comics, Marvel et compagnie. On a récemment, donc ça fait quand même un petit mois, on a eu une sortie Star Wars de la 501e. L'occasion, alors très très régionale, hein, mais l'occasion de retrouver les copains après un an et demi, sans porter le costume, sans trouper, sans être au contact du public, et sincèrement, ça fait énormément de bien de retrouver tout simplement déjà des gens qu'on apprécie, des copains, et puis de remettre des costumes. Alors, j'étais pas en costume Star Wars, mais c'était une sortie Star Wars, donc je considère que c'est du Star Wars, et voilà, et c'est un peu... alors, il y a d'autres petites choses, mais qui sont un peu anecdotiques, j'en parlerai peut-être dans une prochaine émission, mais ouais, de côté Star Wars, c'est un peu pas mal tout en ce moment, ce qui m'a animé.
Et c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup, et c'est ça qui va conclure cette émission, cette belle émission de reprise littérature. Donc, si vous avez envie de nous laisser un commentaire, une remarque, des suggestions, une seule adresse, donc studio@starwarsdirect.com. Vous pouvez laisser aussi un message sur Facebook, Instagram, Twitter et évidemment, surtout sur notre chaîne YouTube. Si vous avez envie de partager votre passion dans la joie et la bonne humeur, rejoignez-nous aussi sur notre fil Discord qui reste animé hein, malgré des petites journées un peu plus faiblardes. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos émissions sur vos réseaux, likez nos publications et donnez-nous un peu de visibilité. On rappelle qu'on est disponible sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast et Amazon Music. Ben Francis, merci. Et Thomas, merci de m'avoir accompagné ce soir. À bientôt
merci pour à vous.
Une prochaine émission. Et de vos parts à vous deux et de la mienne, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Merci. Et Thomas, merci de m'avoir accompagné ce soir. À bientôt
merci
pour
à vous.
Une prochaine émission. Et de vos parts à vous deux et de la mienne, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.